Vous écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 4h dans la bande de Gaza.
Gali Bonin.
La bande de Gaza qui n'a maintenant plus d'hôpital opérationnel dans le nord, c'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé après un raid de l'armée israélienne. 240 personnes ont été arrêtées, dont le directeur de l'établissement. Au Tchad, dernier acte d'une transition démocratique qui a pris plus de 3 ans, les citoyens sont appelés aux urnes pour choisir leurs élus locaux. Mais le feront-ils? Le détail des obstacles au vote dans ce journal. Un avion s'est écrasé en Corée du Sud au moment de l'atterrissage, c'était il y a moins d'une heure. Le premier bilan des autorités fait état d'au moins 29 morts. Et c'est une visite exceptionnelle, celle des membres du parti pro-kurde de Turquie à Abdullah Öcalan, une première en 10 ans. Aux États-Unis, le nombre de personnes à la rue explose. Ils sont plus de 770 000 à dormir dehors. C'est 20% de plus que l'an dernier. À Gaza, c'était un des derniers hôpitaux encore opérationnels. L'établissement Kamal Adwan a été vidé de son personnel durant un raid de l'armée israélienne. Tel Aviv assure qu'il servait de base au groupe islamiste Hamas. Des centaines de personnes ont été arrêtées, notamment le directeur de l'hôpital, Michel Paul, à Jérusalem.
L'armée israélienne confirme ce soir détenir le directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia. Le docteur Hossam Abou Safia est soupçonné, affirme un porte-parole militaire, d'activités terroristes pour le compte du Hamas. Et en tout, ce sont plus de 240 personnes qui ont été appréhendées dans cet établissement hospitalier du nord de la bande de Gaza. L'opération est maintenant terminée, soulignent les responsables militaires israéliens, qui indiquent encore que les commandos qui ont opéré dans le secteur de l'hôpital y ont trouvé un poste de commandement et des caches d'armes. De son côté, le Hamas, dans un communiqué, dément de manière catégorique la présence de combattants de son organisation dans le centre hospitalier et parle de déplacement forcé du personnel et des patients, tandis que pour Israël, il s'agissait d'une évacuation sécurisée des civils, des patients et du personnel médical vers un centre hospitalier proche, l'hôpital indonésien, selon un porte-parole israélien. L'OMS souligne ce soir que cet autre hôpital n'est pas équipé pour prodiguer des soins adéquats. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Direction le Tchad, où la population est appelée aux urnes pour élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. Samedi, la diaspora, les militaires et les nomades ont pu voter. C'est maintenant au tour du reste de la population. Au total, plus de 8 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote. Cette élection est le dernier épisode d'une transition démocratique qui aura duré plus de 3 ans. Les enjeux de ce scrutin, avec notre correspondante sur place, Nadia Ben Mahfoud.
Les Tchadiens iront-ils voter? C'est l'une des grandes questions de ces élections. Après la présidentielle de mai dernier, nombreux sont ceux qui confient leur désintérêt vis-à-vis de la politique tchadienne. « Je ne crois plus au vote » ou encore « Je ne crois plus au changement », m'expliquent certains d'entre eux. D'autres fidèles du parti au pouvoir, le MPS et fervent soutien du président Mahamat Idriss Déby, n'émettent aucun doute quant à leur volonté de se rendre aux urnes pour offrir au maréchal du Tchad une majorité au Parlement, lui permettant de mettre en application son programme. C'est d'ailleurs l'ambition affichée par le parti et c'est plus de 3000 candidats investis pour l'ensemble des 3 scrutins. Des élections boycottées par une partie de l'opposition, notamment le principal opposant au pouvoir, Succès Masra, et son parti, les Transformateurs. La campagne est par ailleurs très peu couverte à cause de grèves des médias en ligne puis des médias privés. Malgré le manque de confiance de certains électeurs, l'Agence nationale de gestion des élections assure mettre tout en place pour garantir des élections libres et transparentes. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Nouveau développement dans la crise politique en Corée du Sud. Le président déchu Yoon Suk-yeol aurait autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement. Dans un document publié par le parquet sud-coréen, le chef de l'État aurait commandé aux militaires de casser les portes de l'Assemblée et je cite « même si ça veut dire qu'il faut tirer ». Le 3 décembre dernier, Yoon Suk-yeol a proclamé la loi martiale à la surprise générale, une décision aussitôt révoquée par un vote des parlementaires qui a plongé le pays dans le chaos politique actuel. En Corée du Sud, toujours, où un avion vient de s'écraser après une sortie de piste, c'est à l'aéroport de Muwan, dans le sud-ouest du pays. L'appareil de la compagnie Jeju Air revenait de Thaïlande et transportait 181 personnes. Selon le dernier bilan des autorités, au moins 29 d'entre elles seraient mortes. Le crash aurait été provoqué par un contact avec des oiseaux, ce qui aurait entraîné un dysfonctionnement du train d'atterrissage. Autre crash d'avion, il aurait lui été provoqué par un tir accidentel de l'armée russe. L'appareil d'Azerbaïdjan Airlines s'est écrasé au Kazakhstan mercredi. Le président russe a présenté ses excuses à son homologue azerbaïdjanais, mais Vladimir Poutine n'a pas précisé si la défense aérienne russe était oui ou non à l'origine du drame. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est Vladimir Poutine qui a pris son téléphone pour appeler son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Le président russe s'est alors excusé, non pas d'avoir abattu par erreur cet avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui effectuait mercredi la liaison Bakou-Grozny, mais du fait que ce qu'il a qualifié d'incident tragique ait eu lieu dans l'espace aérien russe. Vladimir Poutine a une nouvelle fois adressé ses condoléances profondes et sincères aux familles des victimes. Il a encore souhaité un prompt rétablissement aux blessés, mais le président russe a répété qu'une attaque de drones ukrainiens avait eu lieu sur la capitale tchétchène au moment où l'avion devait y atterrir et que la défense aérienne russe avait tenté de les neutraliser. Pour le moment, Moscou n'a pas confirmé avoir abattu l'avion de ligne. Pour cela, il faudra attendre les conclusions définitives de l'enquête, dont on sait que les résultats préliminaires attribuent la chute de l'appareil à une interférence externe de nature physique et technique. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Et l'ombre de la Russie plane aussi en Moldavie. Cette ex-république soviétique est sous la menace d'une crise énergétique en plein hiver. La société d'État russe Gazprom a annoncé qu'elle comptait fermer les robinets du gazoduc qui alimente le pays, et ce dès le 1er janvier. Un approvisionnement qui représente le tiers des besoins énergétiques moldaves. L'entreprise russe évoque une dette impayée par la Moldavie qui vient de réélire une présidente pro-européenne. Le gouvernement, lui, dénonce une tactique d'oppression et accuse la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme politique. Et ce n'était pas arrivé en près de 10 ans. En Turquie, des membres du parti pro-kurde ont pu rendre visite au chef historique du PKK, Abdullah Öcalan. Emprisonné depuis 1999, il est le fondateur du Parti des Travailleurs du Kurdistan, un mouvement considéré comme terroriste par Ankara et les puissances occidentales. Mais en octobre, les négociations de paix ont repris entre la Turquie et les dissidents kurdes. Cette autorisation de visite sur l'île prison d'Imrali est présenté comme un geste de bonne foi de la part du gouvernement. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Céline Pierre Magnani.
Ce sont deux protagonistes du précédent processus de paix, Selüseleya Önder et Pervin Buldan, qui ont été choisis pour cette visite hautement symbolique samedi 28 décembre. La dernière délégation du parti pro-kurde, le HDP à l'époque, s'était rendue sur l'île prison d'Imralı en 2015. Et depuis, seuls ses avocats et son frère avaient été autorisés à s'entretenir avec le chef historique du Parti des Travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan. Alors que les autorités d'Ankara ont à nouveau démis des maires de leurs fonctions pour leur lien supposé avec le PKK, il fallait un geste fort pour convaincre l'opinion publique de la sincérité de la démarche. Dans la plus grande ville kurde de Turquie, Diyarbakır, les résultats d'enquête montrent que les habitants de la région sont encore méfiants. Et l'atmosphère est d'autant plus tendue que les habitants du sud-est ont les yeux rivés sur les développements dans le nord-est kurde de la Syrie. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les villes frontières de Suluç et Nusaybin pour exprimer la crainte d'une vaste offensive de la Turquie et des factions islamistes de l'armée nationale syrienne. Céline Pierre Magnani, Diyarbakır, RFI.
C'est un triste record aux États-Unis. Plus de 770 000 personnes sont sans abri, un chiffre qui a bondi de 18% en un an. Et ce qui inquiète les autorités américaines, c'est la hausse du nombre de familles qui sont à la rue avec leurs enfants. À New York, la correspondance de Lubna Anaki.
Les chiffres révélés par le département du logement sont sans doute en deçà de la réalité, car le rapport ne prend pas en compte les personnes qui logent chez des proches ou dorment dans leur voiture. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de SDF est en hausse dans le pays, particulièrement dans des États comme la Californie. 18% de SDF en plus par rapport à 2023, une tendance à la hausse qui touche notamment les familles. Une situation de précarité qui, selon les autorités américaines, serait due aux arrivées massives de migrants, au manque de logements abordables et à la fin des protections mises en place durant la pandémie de Covid. Les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays et laissé des milliers de personnes sans logement jouent également un rôle. Cette situation met aussi en avant les disparités raciales et sociales dans le pays, puisque la communauté noire est particulièrement affectée. La lutte contre le problème des sans-abri est l'un des sujets qui divise le plus la classe politique américaine, les démocrates étant partisans de la mise en place d'un système d'aide élargi, alors que les républicains plaident souvent pour diminuer le budget alloué à ces programmes. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations, consultez le www.rfi.fr et surtout, restez avec nous à l'antenne de RFI.